On avait vu, si vous vous souvenez, on avait vu donc le tabernacle, on avait vu la tente, les quatre tapis, ce qu'ils représentaient, on avait vu la cuve d'airain, on avait vu ensemble l'autel des holocaustes, on avait vu aussi toute, on va l'appeler la clôture, ce qu'elle représentait, les barres, les poteaux, les piquets, enfin pas les piquets, les socles, voilà. Ce matin donc, on va ouvrir le rideau, le premier, pour rentrer à nouveau dans le parvis. On va mettre de côté donc l'autel des sacrifices, qui fume là, vous voyez, là c'est le premier. Ah mince, j'avais mon petit zinzin, mon petit truc là pour vous montrer. On m'a offert un truc avec un laser, alors j'ai oublié à la maison. Oh. Alors ça c'est bête. Hein. Sinon, je vous aurais montré, j'aurais fait le laser. Je l'ai oublié à la maison, c'est pas grave. Et puis on va passer aussi à côté de la cuve d'ablution. Et là, on va ouvrir le deuxième rideau, on va rentrer dans le lieu saint. Dans le lieu saint, d'accord ? Je rappelle qu'il y a deux endroits. Il y a le lieu saint et le lieu très saint, où il y a l'arche. Mais nous n'y sommes pas. Là, on va voir donc ensemble la table des parfums. Je rappelle que le parvis, la tente, enfin tous ces objets qui sont ici, sont des symboles qui nous parlent en fait de la personne de Jésus. Tout nous parle de Jésus dans cet ensemble. En fait, ça représente la première partie, c'est en fait ça représente cette étape ou cette expérience pour nous peuple de Dieu. Donc c'est toujours d'actualité. La première porte, c'est au niveau de la porte, c'est la prise de décision. La deuxième étape, l'autel, c'est l'acceptation. L'autel du sacrifice, des holocaustes. La troisième étape, où il y a la cuve des reins, c'est la purification de nos péchés, la cuve. Et je rappelle, je ne sais pas si vous en souvenez, une image saisissante, admirable. Lorsque les sacrificateurs offraient les animaux, parce que le peuple a porté ces animaux, pour eux, mais aussi pour le peuple, ces hommes qui étaient là, vous pouvez imaginer, vous avez déjà vu croiser un boucher dans la rue, l'autre jour j'en ai croisé un, il faisait presque peur. Hein. Il était habillé en tenue, avec du sang de partout, là. Enfin ça faisait même pas très, voilà. Mais en fait ces hommes, ils étaient tachés du sang, et le sang en plein soleil, ça donne quoi ? Ça sent mauvais. Ça nous parle de nos péchés. Le péché sent mauvais. Ça nous rend sale. Et lorsque ces hommes allaient à la cuve des reins montée pour se laver, pour se purifier, que voyaient-ils ? Je rappelle que la cuve était faite avec les miroirs des femmes. Que voyaient-ils ? Ben, ils voyaient leur propre reflet. Ils voyaient ce qu'ils étaient en réalité. Si vous avez une tache, j'espère que j'en ai pas. L'autre jour, j'étais en train de me brosser les dents, et puis ma femme ou mes gamins me disent, mais non, c'est le petit, me dit, t'en fais exprès ou quoi ? Et je dis, de quoi ? Et ma femme a compris que j'en faisais pas exprès, elle me dit, mais non, il n'en a pas fait exprès. Enfin, j'avais du dentifrice là dans la barbe, là, vous savez, là où il y a. Heureusement qu'on me l'avait averti avant de partir. Parce que quand on a une tache sur soi, sur notre visage, on ne le voit pas. À moins qu'on se regarde dans un miroir, on est d'accord. Eh bien, ici, lorsque les sacrificateurs se regardaient dans la cuve, ils se voyaient tels qu'ils étaient. On ne peut pas tricher devant un miroir. On se voit tel que nous sommes, en réalité. Et ils avaient... C'est très culpabilisant, en fait, de se voir tel que nous sommes, en réalité. Quand on vient à Jésus, ce n'est pas simplement « je viens à Jésus, je rentre pour la première fois dans une église, ça chante bien, il y a de la belle musique, ceci, cela, waouh, super, voilà, gloire à Dieu, je suis sauvé. » Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Combien d'entre nous, après nous sommes tous différents les uns des autres, combien d'entre nous sommes passés par les larmes, par la culpabilité en disant « oh !» Mais tout le monde ne passe pas par les larmes, hein, on est tous différents. Hein. mais des gens qui pensaient qu'ils étaient de braves personnes, une bonne conscience, casier judiciaire vierge, ou parfois jamais vu, pas pris non plus, hein, mais enfin bon. Et puis, au contact de l'Évangile, on s'aperçoit en fait que, ben, on est des tordus. Hein. Excusez l'expression, mais enfin, bon, c'est clair. On a des tâches dans notre cœur, dans notre vie. Mais ce que ces sacrificateurs voyaient en plus, c'était non seulement leur propre visage tel qu'il était, mais ils allaient se laver et ils voyaient dans le reflet le ciel. C'est ça la double vision, de se voir tel que nous sommes, mais le salut nous vient du ciel, le ciel bleu d'azur. Et ce qui est important de réaliser, frères et sœurs, c'est que même si notre cœur peut nous condamner, il est important de venir à Jésus pour nous pardonner, nous laver, nous purifier, nous sanctifier de tout péché. On rentre dans la tente. Alors, soit qu'elle est très courageuse, ou alors c'est une kamikaze, je ne sais pas, mais ça va. L'intercession, l'autel nous parle de l'intercession. Cet encens qui montait vers le ciel. L'intercession de Christ pour nous. Notre communion à la table de proposition des pains. Et puis, le témoignage qui représente le chandelier, ou le chandelier qui représente le témoignage. Et puis la dernière étape, c'est dans le lieu très saint qui nous parle eh bien, de la foi changée en vue à l'intérieur du voile. L'autel des parfums, donc on prend cette partie, cet objet, comme le grand autel à l'extérieur des sacrifices, et l'autel des parfums est composé de deux matériaux différents. L'autel du sacrifice, vous imaginez que j'ai mon laser, là, l'autel des sacrifices était composé de bois, et des reins. D'accord ? Les reins recouvrant le bois d'acacia. Et puis, l'autel des parfums, que vous voyez au milieu, juste au milieu avant le troisième voile, était composé de bois et recouvert d'or. Et là aussi, il y a toute une signification. Ce n'est pas parce qu'ils manquaient des reins ou ils avaient trop d'or. En fait, les reins représentent, le bois représente toute l'humanité de Christ, nous parle de la croix. Et puis, les reins nous parlent en fait du jugement. L'autel des sacrifices, ça nous parle de la croix, l'autel des jugements. Jésus a pris sur lui nos péchés. Et c'est à travers le fait que Jésus ait donné sa vie et ait payé nos péchés que nous pouvons passer à l'étape suivante, à la cuve, où c'est Dieu qui nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Mais avant tout ça, il nous faut passer là. La prise de décision. J'entends l'évangile, je rentre pour entrer dans la présence de Dieu. Mais avec le sacrifice, Dieu me lave et je peux rentrer dans sa présence. Comprenez, c'est bon ? Et l'or, l'autel des parfums qui est symbolisé ici, donc juste avant la troisième porte, est faite de bois, comme je le disais tout à l'heure, mais recouvert d'or. Et en fait, l'or nous parle de la divinité. Jésus est venu sur terre pleinement homme, et Jésus est dans le ciel pleinement Dieu. Mais avant de venir pleinement homme, il était déjà pleinement Dieu. Christ a été crucifié dans la faiblesse, mais il est ressuscité glorieusement. Ce qui fit l'homme de douleur est aujourd'hui l'homme de gloire. Sa position, je ne sais pas si ça vous a interpellé, mais en fait, tout est en ligne droite. L'autel des sacrifices, donc la première entrée, la première porte. L'autel des sacrifices qui est suivi. Donc il fallait voir l'autel des sacrifices avant de voir l'autel, la cuve. On passe par la porte, on voit l'autel des sacrifices, la croix. La porte, l'autel des sacrifices. Une fois qu'on a passé cette étape, on passe à la cuve des reins, où on est lavé, purifié, sanctifié, parce qu'on a accepté Christ dans notre vie, en passant par la repentance. Et l'autel des parfums, lorsqu'on ouvre le voile, nous parle de l'intercession de Christ pour nous. C'est notre prière aussi qui monte au ciel. Notre reconnaissance, notre adoration, et l'égard du Seigneur. Il est situé donc à l'intérieur du lieu saint, dans l'alignement de l'autel des holocaustes et la cuve d'airain et de l'arche. Et tous ces objets sont alignés entre le grand autel et le propitiatoire, sont représentés la manière dont nous devons procéder pour nous approcher de Dieu. Il y a un ordre logique dans ces choses. Ce n'est pas je commence à passer par derrière. Il y a des gens qui ont voulu, pour venir s'approcher de Dieu, ont voulu faire autre chose que passer par l'ordre chronologique. Pas chronologique, que dans l'ordre que Dieu a institué. Il y a des gens qui ont essayé de faire des œuvres pour essayer de mériter d'être dans la présence de Dieu. Ça existe toujours. Il y a des gens qui ont tordu le sens des Écritures, pensant que ça allait passer. Et comme Dieu ne fait rien tout de suite, spécialement, alors ils pensent qu'ils peuvent continuer comme ça. Il y a des gens qui mélangent l'ensemble du christianisme avec le paganisme, avec des traditions, avec des symboles, enfin un tas de choses. Et comme si Dieu ne fait rien tout de suite, eh bien les gens pensent qu'ils peuvent passer ici et là. Sauf que mes frères et sœurs, la Bible, c'est la Bible. Et Dieu ne changera pas un seul iota de sa parole parce que nous avons des beaux yeux. Ou parce qu'on fait bon chic, bon genre. La Bible, c'est la Bible. La parole a été écrite une fois pour toutes. Et ce qui est important, c'est de prendre pour référence la parole. Et ne pas essayer de chercher par ses propres moyens de bifurquer, de passer par un autre endroit, parce que je pense que... Un jour, il y avait un brave, il est venu me voir au bureau, et puis, excusez, mais bon, je vais essayer de le dire correctement. Il disait qu'il avait des rencontres très intimes avec des dames. Il se disait chrétien. Mais je lui ai fait juste remarquer qu'un chrétien n'a pas de relation en dehors du mariage. Mais ça, c'était bon pour l'Ancien Testament! Mais non, ce n'est pas bon pour l'Ancien Testament uniquement, c'est toujours d'actualité. Vous voyez comme quoi c'est un exemple. Des gens vont faire les choses ou vont dire les choses de leur manière, comme ça les arrange. Une fois, eh bien, il y avait une brave grand-mère qui était en colère contre Dieu. Elle n'était pas d'accord avec la façon de faire de Dieu. Et quand vous lui parlez, ah, elle est toujours en relation avec Dieu. Il nous faut faire attention. La parole, c'est la parole. Les dimensions, donc, ces dimensions, c'est... Il y avait deux coudées. Une coudée, ça représente, selon les temps, environ 50 cm. Il y avait une différence d'une demi-coudée, de plus avec l'arche du propitiatoire. Celui qui s'est humilié lui-même, maintenant souverainement élevé, Dieu l'a ressuscité des morts et l'a placé au-dessus de tout. Et Dieu estime que la valeur de la mort expiatoire de son Fils est au-dessus de tout. De tout. Jésus est le tout accompli. Le tout accompli. Il y a une particularité sur cette table, c'est que cette table est posée déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle? En fait... Ce sont les barres qui passent dans les anneaux. Les barres qui passent dans les anneaux sont là juste pour faire le transport. Et ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit, mais maintenant que la table est posée, Dieu a demandé que la Shekinah s'est arrêtée à tel lieu, les Hébreux, chacun avait donc sa tâche, les Lévites avaient leur tâche pour pouvoir monter l'arche, le tabernacle, enfin... tous les ustensiles, mettre l'eau, préparer le feu pour l'Holocauste, voilà, et de se dire, mais pourquoi laisser les barres, puisqu'on est arrivé? En fait, cet autel, l'autel des parfums, je l'ai dit tout à l'heure, ça nous parle de l'intercession de Christ pour son peuple. Les barres nous parlent bien de toute, comment dirais-je, de la permanence de l'intercession de Dieu pour son peuple. Ça nous parle de la permanence. Ça nous parle aussi du fait que, eh bien, il est écrit dans Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est-à-dire que Dieu demeure au sein de son peuple. Dès que son peuple devait partir, il partait avec. Enfin, la table des parfums. Il y a ses cornes. qui sont au nombre de quatre. En fait, là aussi, ça nous parle eh bien, de la puissance de l'intercession de Christ pour son peuple, de Dieu pour son peuple. Le chiffre 4 peut se référer aux quatre camps d'Israël, ce qui implique cette puissance est suffisante pour tous. Mais en fait, le chiffre 4 nous parle aussi d'autre chose. Les quatre points cardinaux. Et Christ n'est pas mort simplement pour les Hébreux, mais Christ est mort pour le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, j'ai, en toute simplicité, je me suis dit, le chiffre 4 peut aussi représenter une autre chose. Représenter notre propre vie. Dans le psaume chapitre 1, au verset 2 à 3, il est écrit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. » Donc il est question de l'homme qui donne son fruit en sa saison. En fait, les hommes que nous sommes, nous traversons les quatre saisons. Les quatre saisons. La première saison, c'est le printemps. On va mettre dans ce sens. Le printemps où c'est l'enfance. C'est lorsque nous venons à Jésus, on découvre tout, tout est merveilleux. Waouh, super, waouh, des frères, des sœurs, ouh, et toi, oh, t'as vécu ça, et toi. C'est le premier pasteur, on l'aime, c'est notre pasteur, parce que c'était celui qui nous a reçus, qui nous a baptisés. C'est souvent comme ça que ça se passe, hein, d'ailleurs. Et je demanderai, par exemple, aux uns et aux autres, vous rappelez de votre premier pasteur, et vous avez encore beaucoup d'affection pour lui. Même s'il est décédé, vous pensez à lui, vous... Voilà, parce que c'était votre pasteur. Hein, voilà. Et... C'est l'enfance, c'est dans la vie de l'homme, c'est l'enfance. Si on est insouciant, on joue, on, voilà. Dans la vie chrétienne, c'est la grande découverte. On découvre. Et c'est merveilleux. On saute, on chante, wow, on est prêt à faire, wow, je vais aller ici, je vais faire ça, je vais encore faire ça. Wow. Et puis après, il y a la période de l'été. Là, c'est la jeunesse. Alors, dans la jeunesse de l'homme, c'est là où... On suit son cursus universitaire, voilà, et puis on a choisi une orientation, on choisit un métier. C'est là aussi on rencontre, pour les dames, celui qui viendra notre conjoint. Pour les messieurs, celle qui sera notre chère et tendre. Voilà, celle avec qui je ne ferai qu'une seule chair. C'est là où on achète, par exemple, une maison, c'est là où on investit, c'est là où on a des enfants. Parce que ce n'est pas à 80 ans qu'on se dit, tiens, si j'achète une maison, à moins qu'on ait un héritage. Bon, voilà. Bon. Mais on fait des projets à court terme, moyen terme et à long terme. Quand on est dans la saison du printemps, dans la saison de l'été. Dans la saison de l'été, eh bien, c'est notre jeunesse encore. On est plein de vigueur, d'enthousiasme. C'est là où on fait des projets aussi avec Dieu. On dit, Seigneur, je te donne toute ma vie, sers-toi de moi. Ou parfois, il y a aussi des appels qui sont donnés de la part de Dieu pour entrer, par exemple, dans le ministère. Moi, je crois, oui, en effet, que le Seigneur peut appeler à 80 ans. On va pas restreindre Dieu. Hein, dire, oh non, à partir de 60 ans, Dieu n'appelle plus. Non, c'est pas vrai. Quand on lit la parole, on voit que même des Abraham et Moïse, même à 80 ans, donc vous, ceux qui avaient 80 et plus, attendez-vous, est-ce qu'un jour Dieu vous demande peut-être quelque chose de particulier? Qui sait? Et puis, il y a la période de l'automne. En fait, l'automne, c'est quand on arrive à la retraite. On commence à regarder dans le rétroviseur de notre vie, on se dit, il y a déjà de l'eau qui est passée sous le pont. Hein. Quand on arrive à la retraite, c'est là qu'on devient des grands-pères et des grands-mères chicoufs. Voilà, on est content de voir ses petits-enfants, on dit chic, et quand ils repartent, on est ouf, voilà. Et c'est là où on essaie de profiter de sa retraite, ne me demandez pas quand est-ce qu'elle sera, puisqu'on personne ne le sait encore pour l'instant, voilà. Mais on va voir bientôt, incessamment sous peu, quand est-ce qu'on prendra sa retraite. Mais voilà, on ne fait plus des projets à long terme, mais on fait des projets à moyen terme et à court terme, ou à court terme et à moyen terme. Et puis dans la vie chrétienne, eh bien... On a d'expérience, on marche avec le Seigneur, on a déjà pris quelques coups derrière la tête par les épreuves, par des choses qui sont difficiles. Mais ô combien c'est important de passer par des temps d'épreuves. Non pas parce qu'on le veut. Moi, je n'aime pas les épreuves. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais moi, je n'aime pas ça. Mais Dieu peut permettre les épreuves, justement, pour nous façonner. C'est sa pédagogie à lui. C'est sa pédagogie à lui. C'est comme quand on est à l'école, on dit « Dimanche, samedi matin !» Enfin, il n'y a plus d'école le samedi, moi, c'est ma génération. « Tous les samedis, dictée !» C'était l'épreuve. C'est pour savoir où on en est. Hein, où on se, à quel niveau on se trouve. Hein. Et puis, arrive la période de l'hiver. En fait, la période de l'hiver, c'est quand on est âgé. Quand on sait que, eh bien, la maison se déglingue, mais le locataire se porte bien. Comprenez ? Voilà, quand on commence à prendre les cachets, vous êtes à combien de cachets, frère ? Oh, ben j'en prends 10 par jour. Voilà, j'ai de la tension. Mais là, c'est quand on est vraiment dans l'âge, un peu comme Bruno, quand on arrive à un âge. Voilà, quand on commence à se promener avec son déambulateur ou des choses comme ça. On est en maison de retraite, vous voyez, 80 et plus. 80 et plus. Et quoi que. Il y en a, ils ont 80 et plus, et même 90, et ils n'ont pas besoin de déambulateur. Hein. Mais enfin, je dis ça avec un petit peu d'humour pour faire comprendre que. Par rapport au parallèle avec notre vie chrétienne, on a beaucoup d'expérience. Et on sait une chose, en fait, c'est qu'on ne sait rien. C'est qu'on apprend toujours à découvrir Dieu. Et plus on avance avec Dieu, plus on se sent tout petit. Plus on se sent tout petit. Et ces cornes représentent la puissance de Dieu pour nous tenir. L'intercession, cette fumée, la fumée de l'encens qui montait, c'était notre reconnaissance, mais aussi l'intercession que Dieu a envers nous. Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Avant même que ça n'arrive, Jésus avait déjà prié pour Pierre. Frères et sœurs, combien il est important de comprendre, de réaliser que cette puissance, vous savez, si on est honnête avec soi-même, tous ceux qui sont convertis, tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, combien de fois on est revenu au pied de la croix ? Personne, je suis sûr, si on est honnête avec soi-même, personne ne pourrait dire, mais moi j'ai commencé, le jour que j'ai commencé ma vie chrétienne, je n'ai pas branché, je suis toujours resté fixé à Dieu, voilà, et puis je ne fais que... Combien il y a eu de haut, combien il y a eu de bas, combien il y a eu de dépression spirituelle. Parfois même, certains ont eu des loupés dans leur vie. Des loupés, pour ne pas dire une chute, un péché. Combien même parfois certains ont laissé revenir, sont retournés à ce qu'ils avaient vomi jadis, ils se sont créés des addictions, et ils sont revenus à la croix en disant « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi ». Donc c'est la puissance de Dieu qui nous maintient dans la présence de Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire, qui crée en nous cette disposition de cœur, d'âme et d'esprit. C'était David Wilkerson qui disait, mais des fois j'ai, il avait écrit dans un livre en quelques mots, il disait, mais des fois j'ai pas envie de prier, j'ai même pas envie de lire la Bible. David Wilkerson qui est connu dans le monde, hein, presque. Hein. Voilà. Mais il était assez honnête pour le dire, bah, des fois ça m'arrive. C'est pas parce qu'il était tombé dans un péché ou quoi que ce soit, mais il y a des fois, il y a des creux, il y a vraiment des creux, on fait le planeur. Voilà. Et on attend d'atterrir. Et puis, autour, vous voyez, à côté des cornes, il y a une bordure. Une bordure. Qui, en fait, cette bordure était là pour empêcher que les cendres de l'encens ne tombent. Les cendres incandescentes étaient protégées donc par cette bordure. Elle était sans doute réconfortante pour le sacrificateur si ses pieds à lui trébuchaient. De savoir que les cendres incandescentes n'allaient pas tomber par terre. C'est réconfortant de savoir que je peux trébucher, mais que Christ, les cendres, la prière qui monte au ciel, ne trébuchera jamais. Et que l'intercession de Dieu pour moi n'aura de cesse. Ça peut arriver à chacun d'entre nous de trébucher, frères et sœurs. De trébucher. Et c'est important de se rappeler que Dieu ne trébuche pas. Dieu, lui, reste fixe. Il est éternel. Je l'ai dit tout à l'heure, quand Pierre a a chancelé, il était même tombé, mais les centres de crise, prière, intercession, n'ont pas fait défaut. J'ai prié pour toi. Il y a cet encens qui est brûlé sur cet autel, sur cette table des parfums. En fait, l'encens avait été composé de mélanger avec trois épices qui devaient être de poids égal. C'était très, il fallait que le sacrificateur soit très scrupuleux. C'était au poids égal. Trois épices, poids, égal. La valeur de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur ces trois bases. La valeur de sa vie, la valeur de sa mort et la valeur de sa résurrection. Et c'était une mystérieuse composition que Dieu seul peut totalement comprendre. Pourquoi ces trois épices? Pourquoi au poids égal? Il y a des choses qui nous dépassent, où nous n'aurons pas l'explication sur les situations par lesquelles nous sommes passés ou par lesquelles nous passerons, frères et sœurs. Mais Dieu seul sait pourquoi. Pourquoi un tel est passé par là? Pourquoi un tel, sa route a dévié parce que Dieu a voulu qu'il passe par là alors que c'était tellement logique d'aller tout droit. Et Dieu a voulu que ça soit par la droite, par la gauche, peu importe. Dieu seul sait. Aucun homme ne devait donc confectionner le même encens semblable aux épices qui étaient précieux aux yeux de Dieu. Aucun homme ne devait en confectionner de semblable pour son usage personnel. C'était un usage spécifique pour la table des parfums. Il y en avait un qui connaissait le secret. C'était celui qui confectionnait. Il fallait qu'il se garde de toute tentation. Dire, ah ça, un petit peu de gramme en plus, c'est pas le même que Dieu, mais enfin un petit peu de gramme en plus. Et puis je vais rajouter un petit peu de ça pour que ça sente bon chez moi. Frères et sœurs, faisons attention. Qu'on n'essaie pas de gratter un petit peu ceci, cela. Comment dit-on? Prendre un texte hors de son contexte pour s'en faire un prétexte. Hein, c'est ça? Trop de gens jouent avec ça. L'encens devait être pas imité à aucun prix. Et en fait, qui pourrait remplacer l'œuvre de Christ? Seuls les sacrificateurs mettaient ces épices sur l'autel. Les charbons ardents faisaient monter devant Dieu tout un parfum de bonne odeur. Nous vivons dans une époque, frères et sœurs, où la Troisième Guerre mondiale, l'épée Damoclès est au-dessus de notre tête. J'ai lu encore, je crois que c'est ce matin, qu'il y avait des manœuvres pour envoyer des bombes nucléaires à la frontière ukrainienne. Le sous-marin russe qui est lanceur de torpilles tête nucléaire, ils le cherchent, ils ne savent pas où il est. Même si quelques-uns sont en désaccord, il y en a qui mettent le colonel général, ce n'est pas un titre qu'on a chez nous, hein, colonel général, je crois, c'est Tchétchène, qui est tout heureux d'être voir ses priorités et qui met de l'huile sur le feu, pousse Poutine à déclarer la guerre, on joue sur les mots. L'autre jour, il y avait l'ambassade russe en France qui était interviewée, et les journalistes lui ont fait remarquer, mais vous reculez, l'armée russe recule, et puis en quelques mots, il était très instable sur sa chaise. Il faut observer les gens. Hein. Bon, c'est un russe, donc il ne parle pas comme nous, il a forcément parfois des problèmes d'élocution par rapport à certains mots, c'est ça, d'accord. Mais je le trouvais très instable, malgré tout, quand il parlait. Il disait, mais c'est pas parce qu'on recule, ça veut rien dire. Et puis on joue sur les mots en disant, mais c'est pas la guerre, c'est une mission spéciale. On joue sur les mots. Mais enfin, pourquoi je dis tout ça? Et puis on fait le Donbass et puis toutes ces régions, on les déclare comme étant faisant partie de la Russie, comme ça on dira après, ils ont attaqué la Russie. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'il y a encore, je sais pas si vous faites attention, si des fois vous réfléchissez à certaines choses. Allez, il y a 20 ans, On ne nous parlait pas de mariage, comment dit-on, pour tous. Ça n'existait pas. Quand vous voyez les gens à la télé, les filles qui dansaient pas en petite tenue, avec le chanteur, enfin, ça se voyait peut-être un peu, mais enfin, là, les chanteuses, plus elles sont débraillées, plus ça attire les regards, et en fait, on fait plus attention à ce qu'elles sont qu'à ce qu'elles chantent. C'est la débauche. C'est pas pour faire le puéril, hein, mais c'est une réalité. Les gilets jaunes, on s'est aperçu que le monde peut se retourner contre son propre gouvernement. Il y a eu la Covid, et je passe les étapes. On s'est aperçu que le monde pouvait être fermé avec un ordre, et gare à celui qui se retrouvait dehors. On n'a jamais connu ces choses. Même les plus anciens parmi nous n'ont jamais connu ces choses, frères et sœurs. Même ceux qui restent de la Seconde Guerre mondiale n'ont même pas connu ces choses. Ils avaient un passe, les Allemands les arrêtaient, mais enfin bon, s'ils n'avaient rien à... ça allait. Et puis on s'aperçoit que maintenant, personne n'aurait pensé qu'on pourrait être... on pourrait nous parler d'une Troisième Guerre mondiale. On se dit, mais les grandes puissances ont la bombe nucléaire, on sait bien s'il y en a un qui appuie, l'autre il va appuyer, sauf qu'on nous dit, mais ça peut arriver. Personne en 48, 15 mai 48, je crois, n'aurait jamais pensé qu'Israël aurait son territoire. Par exemple. Enfin, toutes ces prophéties arrivent. L'immoralité, la violence même. La violence. Les gens qui tuent comme ça pour la religion, pour la politique. Les gens, parce que vous êtes arrêté au passage piéton, l'autre il va descendre, pourquoi tu t'es arrêté ? Boum ! Une grand-mère de 80 et quelques années s'est fait agresser par un jeune de 14 ans avec les copains qui étaient là. Et puis, l'autre jour, un jeune handicapé s'est fait agresser par 3 ou 4 jeunes, là. Voilà. Pour le plaisir de... voilà. En fait, on vit dans une société immorale, de plus en plus violente. En fait, il faut nous accrocher à Dieu. De plus en plus. De nous rappeler que Christ intercède pour nous. De ne pas faire de mélange, que le monde ne rentre pas dans l'Église. Que nos tenues soient respectueuses. Qu'on ait des tenues, moi des fois je suis choqué même à des enterrements de voir, même sur le plan, enfin, je suis pas né de la dernière pluie, mais enfin il y a des choses qui me choquent, qui m'étonnent. De venir en savate comme ça, pour aller à un enterrement, mais tu peux pas t'habiller, enfin moi je le dis pas aux gens, mais tu peux pas t'habiller. En pantacourt ou je sais pas... un enterrement, mais il est où le respect ? Même dans l'Église, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les frères, si vous voyez certains frères en disant, mais pourquoi lui c'est... J'ai dit aux frères, j'ai dit, moi les frères qui viennent à la Sainte-Seine, s'ils sont en pantacourt, en short, en bernuda, je ne veux pas qu'ils viennent à la Sainte-Seine. Ce n'est pas une punition. Hein. C'est parce que ça s'appelle du respect pour moi. Peut-être que je suis un vieux bougon, tout ce que vous voulez, j'en sais rien, hein. Enfin, tant que je suis là, c'est comme ça. On doit avoir du respect. Et il y a trop de facilité pour désacraliser les choses de Dieu. Mais le Seigneur, ça va. Puis comme Dieu ne... Vous savez, dans l'Ancien Testament, Moïse, il intercédait, mais rappelez-vous ceux qui se sont rebellés contre Moïse. La terre s'est ouverte. Ils sont descendus dans la terre tout vivant. La terre les a... s'est replié sur elle-même pour eux, ils sont morts. Ananias et Saphira, il nous faut garder la crainte de Dieu dans notre cœur. Et de dire, Seigneur, je sais que tu intercèdes pour moi dans les quatre saisons de ma vie. Je sais que tu intercèdes pour ma famille, pour ceux du monde entier, que tu as donné ta propre vie pour eux. Seigneur, je sais que, eh bien, cet encens monte. Je ne veux pas faire de confusion de genre. L'encens de Dieu, ce qui doit revenir à Dieu, doit revenir à Dieu. Ma reconnaissance, ma louange, mon adoration est à Dieu, pas à un homme. On peut avoir de l'amitié, de l'affection. Bien sûr, c'est, ça vient de Dieu. De s'aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Alors bon, vous avez un tas de m'aimer parce que sinon vous... C'est biblique. Hein. Mais entre adorer quelqu'un, là on est dans le péché. Faire des préférences, on est dans le péché, dans l'épître de Jacques, il nous en parle. On doit rendre à Dieu ce que l'on doit rendre à Dieu. Honorer Dieu par notre offrande, Vous savez, oh, quand même. Dis donc, je vais dire Martine. Alors, je fais attention au prénom. Josette. Il n'y a pas de Josette? Dis donc, Josette, t'as quelque chose dans ton porte-monnaie? Parce que j'ai pas de sous, là. Oh, tiens, donne-moi les 2 euros. Vous m'avez jamais entendu, rarement entendu parler d'argent, frères et sœurs. Parce que j'aime pas parler de ça. En fait, je suis très mal à l'aise. Parler d'argent, parce que je veux pas que les gens pensent que ah, le frère, il fait de l'appel à l'argent pour avoir des sous. Rien à voir avec ça. Vous donnez votre offrande. Et rappelez-vous que si vous la donnez, si demain on est 500, je ne touche pas en proportion du nombre de gens. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Et puis l'argent, ce n'est pas que pour le pasteur. C'est l'argent, c'est pour l'électricité, c'est pour enfin, acheter faire les travaux dans les locaux. Enfin, c'est un ensemble. On sait bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais entre eux, donner selon ce qu'on peut et donner parce que oh, tiens, j'ai 20 centimes, ce n'est pas la même chose. On n'honore pas Dieu. Seigneur, je t'aime. Ouh, alléluia, je m'abandonne à toi. Déjà, abandonne ton billet de 10 euros, déjà. Non, mais bien sûr que vous le prenez avec humour, mais c'est sérieux ce que je dis. Dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, mais pff, si je t'aime simplement le dimanche matin et puis après, bah, c'est la débandade à l'usine, je bois, et hop, un canon, et de droit. Il est où le respect de Dieu, là? Voilà, si je travaille au chantier, les gens qui sont au chantier, ils ont besoin du Seigneur. Si je me montre comme eux, qu'est-ce qu'ils voient comme différence? Et une bière, vous avez le droit de boire une bière, mais entre boire une bière et 3 bières, c'est pas la même chose. Vous avez le droit de prendre un verre de vin, mais entre prendre un verre de vin et puis je sais pas combien, parce que ouais, c'est comme ça, on est des hommes. Des hommes, c'est pas ça la valeur d'un homme. D'accord? Et je dois... reconnaître, c'est aussi reconnaître Dieu dans toutes mes voies. C'est pas simplement dans ce qui m'intéresse. C'est reconnaître Dieu dans toutes mes voies. C'est ça, honorer Dieu. Et lorsqu'on fait monter notre prière à Dieu, notre reconnaissance, il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle. Je termine. La conclusion, le sacrificateur accomplissait son service dans le lieu saint. Mais rappelons-nous ce qu'il faisait. Il venait servir le Dieu 3 fois saint. Il y avait les objets qui étaient saints, pleins de symboles. Mais ses pieds, lui, étaient dans le sable, sur le sable. Le sable nous parle de la terre, de ses convoitises, de ses tentations. Rappelez-vous ce que Jésus a dit aux disciples. Vous êtes déjà purs par la parole. Mais que faisait Jésus? Il lavait les pieds de ses disciples. Il y a tout un symbole derrière. Alors dimanche, je ne vous laverai pas les pieds, hein. C'est pas demandé dans la parole. Mais ça représentait quoi? Ça veut dire que nous marchons avec Dieu, mais nous sommes encore sur terre. Vous ne luttez pas contre vos pensées, contre votre tempérament, pour qu'il soit, voilà, l'apôtre Paul disait en quelques mots, je me traite durement, je traite durement mon corps, afin de ne pas pécher. C'est-à-dire qu'il veillait sur ce qu'il entendait, sur ce qu'il disait, sur ce qu'il regardait, sur ce qu'il pensait, sur ce qu'il faisait. Afin de ne pas être rejeté. Et la raison pour laquelle nous sommes appelés frères et sœurs à toujours intercéder auprès de Dieu pour sa propre vie, c'est de venir, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, pardonne-moi. Pardonne les péchés que je connais peut-être, mais aussi ceux que j'ignore. Et puis, la fin de ça, c'est il n'y avait pas de siège non plus pour se reposer. En fait, le sacrificateur ne s'asseyait pas parce que la tâche n'était jamais terminée. Elle sera terminée quand nous quitterons la terre. En fait, spirituellement parlant, il n'y a pas de siège. Notre marche avec Dieu est permanente. Ce n'est pas de se dire, tiens, je vais me prendre une petite année sabbatique. Bah oui. J'ai remarqué, moi, enfin vous, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, les moments les plus difficiles, c'est quand je suis en vacances. Alors c'est dommage, hein. Franchement, être en vacances et vivre des moments difficiles, c'est là que c'est le plus compliqué pour moi, spirituellement parlant. Au lieu de dire, oh, alléluia, gloire au Seigneur, wouh, je pars, allez, on va faire plaisir, en Espagne. T'es pas contente? Tu me prêteras ton château? Je vais en Espagne, super. Eh ben, je suis là-bas, je ne suis pas bien. Parce que là-dedans, ça... Un vrai taco. Hein. Vous savez, un Masterson, vous savez ce que c'est, un tracteur, là? Pourquoi ça dure dans le temps? Parce que c'est un moteur qui est pas... Enfin, c'est puissant, mais enfin, je n'y connais rien dedans. C'est... Mais ça dure dans le temps. C'est... Bon. Et en fait, il ne faut pas s'asseoir. C'est-à-dire, Seigneur, je veux rester là, dans ma marche en permanence. Nous sommes appelés à marcher. Dans l'Apocalypse 14, 13, et c'est le dernier verset, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. » Alors que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à faire monter vers lui notre reconnaissance, notre louange. Ne désacralisons pas ce que Dieu nous a donné, surtout pas. N'en soyons pas responsables. Mais en même temps, rappelons-nous que Jésus intercède toujours pour nous dans les quatre saisons de notre vie, que Jésus est mort pour l'humanité, et de nous rappeler qu'en fait, même si dans notre marche avec Dieu, nous trébuchons, la bordure empêchera les cendres de tomber au sol. Alors que Dieu nous bénisse. Amen.